Hey Bartouf, bonne année.
Salut Kurt, bonne année à toi aussi, ça va?
Bah merci, bah super ouais, ça s'est bien passé les fêtes.
Salut les gars.
Ah, salut Flavien.
Salut Flavien, on était en train de... Bonne année à toi aussi, comment ça a été toi?
Ouais, bah écoute, j'espère qu'elle va mieux commencer que l'autre a fini quoi, parce que moi pendant les fêtes, vous avez passé de bonnes fêtes vous?
Ouais,
ça a été tranquille.
Ouais, bah, vous avez de la chance parce que moi j'étais malade comme un chien depuis le 24. Ah, vous l'entendez encore un peu, hein, je suis un peu à peu près. Mais,
ça gratouille au fond, ouais.
Ça gratouille au fond. Et du coup, on avait prévu des jeux et tout avec la belle-mère et la belle-sœur et puis ma compagne. Et puis, elles n'ont pas joué. Et moi j'étais au lit à la place à 20h30, quoi. Donc, ça fait une semaine que je n'ai pas joué, quoi. Heureusement, j'avais pris un peu le temps avant de découvrir des trucs pour un peu avant les vacances scolaires, quoi.
Ah, alors, t'as joué à quoi?
Alors, figurez-vous que j'ai joué à un jeu de 1998 qui s'appelle Tonga Bonga. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les gars?
Pas du tout.
Tonga Bonga.
Ah non. Non, pas du
tout. C'est un jeu de Stéphane Dora. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Stéphane Dora?
Ah oui, peut-être par contre, un peu là, plus. Tu me parles. Pour moi, c'est l'auteur de For Sale et de Niette.
Eh oui. De Niette,
oh, oui,
tout à fait.
Oui,
de For Sale.
Oui, oui.
Et de plein d'autres jeux. J'ai aussi découvert Sardinia récemment, qu'il avait fait sous le nom de Creta en 2005. Et en fait, Tonga Bonga, donc c'est un jeu de 1998. À l'époque, c'était une boîte, vous savez. Ça, je vais peut-être parler plutôt à toi, Kurtz, le collectionneur de vieilles choses. Tu sais, les vieilles boîtes Ravensburger, toutes plates, toutes grandes, là, un peu dégueulasses.
Oui, oui, oui.
Et avec un titre vraiment d'époque des années 90. Quoi. Et en fait, il y a un éditeur coréen, si je dis pas de bêtises, qui est Plate, qui refont pas mal de sorties d'auteurs allemands des années, disons, des vieux jeux, en fait, allemands, du Alex Randolph. Ou pas que allemand, hein, mais en tout cas européen, Alex Randolph, des Kramer, des Knizia, et donc des Stéphane Dora. Donc c'est eux aussi qui avaient ressorti Sardinia et réillustré, parce qu'à l'époque c'était évidemment Franz Hovinkel, hein, lui aussi sacré parmi les sacrés. Là c'est Wang Jingjil qui s'est occupé un peu de ça. Et ils ont, alors je m'en fous un peu en général, tu sais, du matériel et tout, je m'attarde vraiment sur le sentiment de jeu. Mais je trouve que cet éditeur, ils ont des choix éditoriaux assez marquants, audacieux. Je sais pas si c'est des bonnes idées. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que au lieu de leur grande boîte à plat des Allemands, là, en fait, maintenant, la boîte, c'est le plateau. Mais pas comme les jeux de petits chevaux, tu sais, où tu jouais dans le couvercle. C'est vraiment genre le plateau s'enroule autour du matériel pour faire la boîte. Et c'est assez particulier, c'est super chiant à ranger. Genre, quand on l'a découvert, nous, on a mis presque plus de temps à le ranger qu'à jouer. Hein. Mais c'est, tu vois, il y a un côté un peu réduction du matériel où tu vas pas faire une boîte de la taille du plateau, parce qu'en fait, ben, la boîte, c'est le plateau. Quoi. Et je trouvais ça rigolo. Enfin, et Sardinia a un peu le même format. Bref, on s'en fout un petit peu, mais ça mérite d'être souligné. C'est une initiative intéressante, en tout cas. Peut-être pas totalement aboutie, mais voilà. Et très très chouette illustration, hein, en revisite de Wang Jingjil. Mais donc, Stéphane Dora, moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Alors, il a pas que fait des bonnes choses. Hein. Pour moi, il a fait Triquetta, qui est pas mauvais, mais qui est pour moi vraiment une espèce de plagiat de Coloretto ces dernières années, que je lui pardonne pas trop. Mais donc là, on est dans les années 90, et Tonga Bonga, alors on y avait joué à 4, et ils jouent à 3 ou 4, mais c'est plutôt conseillé à 4. C'est un jeu assez particulier. C'est en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est une espèce de roll and move. Donc les roll and move, tu sais, c'est le Monopoly, c'est je lance un dé, je me déplace 2x cases. Et bah, sauf que là, c'est toi qui roll, mais c'est pour faire mouver les autres. Donc c'est toi qui roule les dés, mais tu vas les attribuer aux autres. Et ça va déterminer une puissance de déplacement. Ça, c'est assez intéressant, tu vois. Je sais pas si ça. Il y a plein d'autres des roll and move intéressants, hein. Il y a Fairflix ou des choses comme ça. Mais là, le fait que tu roules et qu'après, bah, tu attribues les dés aux autres, ça me paraît assez original. En tout cas, en 98, c'est sûrement pas l'œuvre innovatrice à faire ça. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va donner les dés aux gens, hein? Donc, lance 3 dés, je vais les donner à chacun de mes 3 camarades. C'est un jeu compétitif, hein, on n'est pas potes.
D'accord.
Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, on va un peu mettre de nos points, qui sont aussi un peu de l'argent, qui vont être les salaires des équipages qu'on va embaucher. Et les équipages, c'est les dés des autres. Donc évidemment, plus tu mets de sous, plus je vais avoir tendance à te mettre des dés à valeur élevée, parce que dans l'ensemble, c'est bien de se déplacer de beaucoup. Par contre, si tu mets pas beaucoup, voilà. Donc tu vois, il y a un côté un peu... tout le monde va comme ça mettre le salaire, hein, qui va être donné aux personnes qui ont posé leurs dés, et puis après, tu vas répartir les dés. Donc comme ça, il y a un peu un côté à estimer, un peu à la Isle of Skye. Ouais, il faut que je mette combien, parce que c'est aussi tes points, hein, donc c'est tes points de fin de partie. Un peu comme dans un Five Tribes ou quoi, ce que tu mises, c'est tes points. Combien est-ce que ça suffit pour la pâtée? Est-ce que j'en ai besoin? J'ai besoin de combien? Et puis un peu de la négociation, évidemment, orale. Ça crée des dynamiques quand même cool. Moi, j'aime bien ce genre de jeu de négociation. Mais après, évidemment, ça dépend aussi du lancer des dés. Si ça se trouve, tous les autres vont faire des lancers de dés pourris. Et toi, tu vas leur donner pas mal de thunes pour des trucs pourris.
Ah oui.
C'est aussi un jeu un peu de pourrissage, hein, parce que voilà, tu vois, tu peux mettre des tout pourris à telle ou telle personne. Alors évidemment, tu rééquilibres hein, selon les scores de chacun et chacune. Mais... Et donc, une fois que tu as fait ça, une fois que tous les dés ont été attribués, on va se déplacer, quoi. Et c'est vraiment, tu te déplaces sur un plateau où il y a. C'est vraiment, tu vois, l'esthétique classique allemande des années 90. T'as des îles, t'as une espèce d'océan, et tu te déplaces d'île en île. Et sur Alors, c'est pas un plateau circulaire, hein, c'est plus ouvert que ça.
Mm-hmm.
Mais tu te promènes d'île en île. Et quand t'arrives sur une île, tu vas gagner de la thune. Tu vas gagner, je crois, genre 25 points. Sauf que si t'es pas le premier, tu vas devoir en donner 5 à chaque personne qui était déjà présente. Voilà, ce genre de choses. Il y a quelques trucs, je sais pas si c'était rajouté, je crois qu'il y en a certains qui ont été ajoutés. Il y a des petits pouvoirs sur certaines cases, la plupart sont un peu nuls. C'est un peu dommage, c'est pas très intéressant, c'est des trucs qu'il vaut mieux éviter parce que c'est des pirates, des trucs comme ça, ça change pas grand chose à l'expérience de jeu. Et t'as juste certains qui sont un peu du pick-up and deliver. Où tu vois, tu vas récupérer un objet et si tu le délivres à la bonne île, ça va te donner des points bonus. Et je crois qu'il faut que tu visites genre 4 îles et puis après, la première personne qui a fait ça, si elle retourne à Tongabonga, qu'elle bosse le point de départ, ça fait un petit point bonus, mais c'est pas forcément cette personne qui a gagné puisque les points, il y a les points que t'as gagnés sur le chemin, mais il y a aussi les points que t'as perdus en embauchant les dés des autres. Moi, l'idée, le concept me plaît, tu vois, notamment cette espèce de roll and move inversé, enfin pas inversé, mais où assez interactif, qui se mélange à de la négociation et tout, je trouve ça assez cool. Aussi le côté Isle of Skye dont je parlais où tu dois estimer combien je perds de points, combien ça va me rapporter, beaucoup de méchanceté aussi quand même dans le jeu, donc ça tchatche beaucoup, ça chouine beaucoup. Moi j'aime bien ce genre de jeu. Par contre le jeu est trop monotone en fait. Alors c'est peut-être dû à son âge, mais dans les années 90 il y avait quand même des meilleurs jeux que ça, et il y a un peu ce sentiment ambivalent d'un jeu qui a une belle promesse, tu vois, et des bons éléments où tu sors de la partie et tu te dis il y a quand même des trucs à sauver du jeu et il y a quand même des bons moments et des interactions intéressantes entre les personnes autour de la table, mais dans l'ensemble, ça garde un peu la fadeur d'un roll and move, enfin de beaucoup de roll and move malheureusement, où ça dépend des dés. Alors effectivement, les dés, c'est pas ceux que tu lances, t'es quand même... Et puis tu finis à pas grand-chose, et finalement ça se joue à un coup méchant, ou des trucs comme ça. Et comme dit, les pouvoirs en plus sont aussi fades. Donc voilà, un peu mitigé, tu vois, j'ai quand même envie de réessayer. A priori, c'est mieux à 4 qu'à 3, donc on a sûrement joué dans la meilleure configuration. Mais je conseille quand même de l'essayer parce qu'il y a quand même un paradigme intéressant. Peut-être qu'il faudrait l'adapter, tu vois, faire des variantes ou des trucs pour le rendre un peu plus... En fait, ça manque de rythme, quoi, si tu veux, c'est très monotone, la partie, elle a dû durer peut-être une heure. T'as l'impression qu'elle... Tu sais, c'est le ressenti et pas le même que la durée réelle parce que c'est très redondant, quoi, et ça manque de petits points de rupture où ça va redynamiser ou de petits événements, alors qu'il y a de l'aléatoire, tu vois, l'aléatoire, il est là avec les dés, donc ça, il est présent, pas de souci, mais c'est le seul aléa, finalement. Donc ouais, à essayer, une curiosité quoi de 98, entre les deux je vous conseille plutôt Sardinia qui est beaucoup plus froid, qui est plus intéressant à mon goût, mais Tongabonga est sûrement moins connu, donc voilà, je voulais vous en parler, je sais pas si ça vous a hypé ou pas l'un ou l'autre, si ça vous tente au Weekend Proxy jeu. Mais...
Bah ouais, carrément.
Ah bah pourquoi pas, le fait de dépendre des dés des autres, etc., il y a un petit côté intéressant qui change quoi, parce que moi la description que tu m'en as fait tout de suite, je me suis dit... Jamaïca.
Oui.
Mais le fait d'avoir les dés des autres, il y a peut-être un petit côté, un petit twist qui peut être intéressant à voir, ne serait-ce que pour essayer, effectivement.
Par contre, il n'y a pas du tout, je crois, les interactions qu'il y a dans Jamaïca, tu vois, le côté bagarre, ouais. Et tout, il me semble pas. Alors, je me trompe peut-être qu'il y a des variantes qui font, mais je crois pas que. Enfin, si tu peux peut-être bloquer l'autre, peut-être que tu n'as pas le droit de finir sur un truc. Enfin, il y a du blocage comme ça, mais ça reste très anodin. L'interaction se passe vraiment plus dans le côté négociation que dans le côté placement pirate, entre guillemets, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Bartouf, tu...
Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est la durée que t'annonces, en fait. Quand tu l'as annoncé, quand t'en parlais, que tu le décrivais, je me suis dit « Oh, ça doit aller pendant une demi-heure ». Puis quand t'as dit « C'est un peu redondant », je me suis dit « Ouais, peut-être que sur une demi-heure ». Et puis quand tu viens de dire « Une heure », je me suis dit « Ouh,
ouais,
ça doit... »
Il est annoncé plus pour 45 minutes. Nous, on a un peu plus traîné, mais parce qu'on a beaucoup blablaté, tu sais, hein, c'est comme ça. On a...
Bah ouais, ouais, ouais.
Mais ça suffit pas à le dynamiser suffisamment pour lui donner du corps, quoi, malheureusement, je trouve. Mais...
Bah si c'est toujours les mêmes enchères, en fait, je comprends qu'au bout d'un moment...
Ouais, c'est ça. La structure du jeu, en fait, fait que c'est redondant, quoi. Et puis le côté où, en fait, ce que tu fais avec les dés, c'est juste tu te déplaces, quoi. Tu vois, t'as pas un dé qui te sert à un truc, un dé qui te sert à un autre, et... Voilà, c'est juste, tu fais la somme des dés, c'est ta puissance de déplacement, quoi, voilà. Alors ouais, si, quand tu places un dé, juste tu vas les placer dans la de manière décroissante. Donc en fait, si tu places un meilleur dé après quelqu'un sur le même bateau, bah en fait tu le décales vers la droite, tu vois. Donc tu prendras la thune qu'il aurait eu, quoi. Donc il y a aussi ouais, c'est là que je parlais un peu de méchanceté, mais parfois tu dégages un 1 par un autre 1 et du coup ça emmerde à la fois la personne que t'as dégagée à droite et à la fois la personne qui t'a embauché, parce qu'un 1 c'est tout pourri, quoi. Mais ouais, écoutez, je vous ferai essayer, c'est pas un gros engagement non plus, et le jeu est quand même assez simple dans l'absolu, mais ça aurait pu être mieux, je pense. Mais ce côté I roll you move, tu vois, un petit peu, c'est cool.
Oui, c'est, non mais c'est original, c'est hyper original, ouais. Ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup de l'essayer, effectivement. Mm.
Et toi, Bartouf, t'as joué à quoi ces derniers temps?
Eh ben écoute, du coup, moi aussi, j'ai joué avec Dédé. Mais moi, j'ai joué avec Dédé avec le dernier Steffenfeld qui vient de sortir.
Ah, je croyais Dédé chance, moi.
Ouais, non.
T'as eu cette chance.
Mais je dis le dernier qui vient de sortir, en même temps, c'est un Kickstarter. Donc, ça fait partie, donc c'est chez Queen Games. Ça fait partie de la Steffenfeld City Collection. C'est le numéro 8.
Celle à 150 balles ou celle à 100 balles?
Je sais pas. Non, la normale, là, c'est la 100 balles. Ce que je voulais dire, c'est. Donc, lui, il est comme Marrakech. C'est-à-dire que c'est pas une réimplémentation, enfin, c'est pas une reprise d'un de ses anciens. C'est bien un nouveau.
Un inédit.
Par contre, aucune idée de est-ce que ça va sortir en boutique ou pas, dans combien de temps, ou même est-ce qu'il va y avoir une sortie. Alors, ça, j'en sais rien.
Et c'est quoi, du coup? Je crois pas que tu nous as dit ce que c'était.
Et donc, du coup, ça s'appelle Katmandou.
Ah, yes. Ah oui, c'est pas Civolution. Civolution, il va sortir. Mais...
C'est ça, non. Civolution, okay, okay. Il sort dans le circuit normal. C'est pas Queen Games. C'est pas.
Oui, c'est vrai, ouais, tout à fait.
Dans la City Collection, là, machin. Du coup, et ben moi, donc, comme je vous disais, ouais, c'est un jeu de dés. Et ben, ce qui est marrant, c'est Lana qui me l'a décrit, parce qu'on en a discuté tous les deux, qui me l'a décrit comme ça. Elle m'a dit, c'est The Quest for Eldorado sous stéroïde, quoi.
Ok.
Ok.
Alors, est-ce que vous voyez, donc, du coup, le Knizia, qui est un jeu où on fait, en fait, une course.
Et du deck building, ouais.
Sauf que c'est avec... et on avance sur un plateau qu'on a construit. Mm. Et du coup, c'est avec du deck building qu'on avance. Donc là, vous laissez tomber la partie deck building, mais vous imaginez bien qu'on a un plateau qu'on a construit nous-mêmes. La différence, c'est qu'on est avec des carrés et pas des hexagones. Et en gros, on a plusieurs plaquettes qui sont des rectangles, avec plein de petits carrés dedans. Et on monte nos plaquettes un peu comme on veut. Donc soit je les mets toutes droites, mais ça c'est vraiment nul. Et puis sinon, en fait, je fais des chicanes. J'en mets une droite, okay. Ensuite je tourne à gauche, ensuite j'avance. Voilà, je fais comme ça avec 6 plateaux, où y a une version plus longue où on en met plus, mais bon, on s'en fiche. Je mets des plateaux et je fais un parcours. Et le jeu est simple. Au bout de mon parcours, il y a Katmandou. Nous, on est sur nos yaks. On est des voyageurs étrangers qui arrivons dans la région. Et on se balade pour arriver jusqu'à Katmandou.
Ok.
On doit faire ça en un certain nombre de tours, on va dire 10, on s'en fiche un peu. Le principe, c'est qu'on a tous 6 dés qui sont à nous, je les lance, j'en choisis un des 6, et j'avance de la valeur qui est écrite dessus.
Ok.
Donc si par exemple c'est un dé de 5, par contre je dois avancer en ligne droite.
Ah yes.
J'avance de 5 en ligne droite. Ensuite, après, j'aurai le droit de tourner, et donc si je veux faire un petit tournant, bah, vaut mieux que je prenne un petit dé de 2 pour pouvoir pouf-pouf un petit coup, je me décale, et ainsi de suite.
Okay.
Sur mon chemin, il va y avoir des embûches, il va y avoir des montagnes, donc du coup, bah, voilà, les petites chicanes dont je suis en train de vous parler, bah, faut essayer d'avancer, tout ça.
Tu peux pas les traverser, les montagnes, c'est infranchissable, quoi.
C'est infranchissable, exactement.
Ok, ok.
Et on va jouer 3 dés, c'est la fin de la manche, sur les 6 qu'on a lancés, j'en joue 3, c'est la fin de la manche, et on fait une nouvelle manche. J'ai pas le droit de finir sur la même tuile qu'un de mes camarades.
Ouais.
Et voilà. Là où on peut du coup jouer aussi avec le hasard, c'est que parmi mes 6 dés, je peux en prendre un, le jeter, donc lui je pourrais pas m'en servir, mais du coup j'ai le droit de relancer tous mes autres dés.
Ok, côté un peu yatsé quoi.
Voilà. Si j'ai un tirage qui me va pas, de toute façon j'en utiliserai que 3 sur les 6, donc à la limite je peux faire 3 relances.
Ouais, ok.
Sachant qu'après du coup j'ai un peu moins de choix, enfin bon.
Et t'es obligé de tout relancer, c'est ça, c'est pas une relance choisie.
C'est ça. Tout relancer, sauf que si j'en ai déjà utilisé avant.
Ah ok, oui d'accord, je vois.
Je peux quand même voilà, m'en sortir à peu près comme je veux. Et ensuite, la dernière chose, c'est que ces dés ont une couleur. Et donc quand je le prends, donc j'avance du...
De la valeur, ouais.
Du chiffre qui est écrit dessus. Et puis je prends le bonus à la couleur du dé.
D'accord.
Donc je prends une boussole quand c'est gris, de l'herbe de yak quand c'est rose, du machin quand c'est marron et tout ça.
C'est du double use dice.
Exactement. Ils ont le double effet. Et après, donc, j'ai des petites missions. En fait, quand j'arrive quelque part avec mon yak, eh ben, je peux avoir quelque chose à faire. justement dans les petits jetons que j'ai récupérés. Par exemple, si je suis en pleine nature et qu'en ce moment il y a un animal à peindre dans la nature, et ben j'utilise mon matériel de peinture, je fais une peinture sur nature de l'animal et hop, tout ça, ça sera des points à la fin.
D'accord.
Il y en a plein des comme ça, je vais pas tous vous les citer sur les 6 couleurs, mais voilà l'idée. Il y a un petit truc en plus et qui est très intéressant, c'est si jamais je vais plus loin que ce que me propose le... Bah justement, je rentre dans une montagne, tu vois, je fais...
Yes.
Il y a 3 pour arriver à la montagne et moi j'ai un dé de 4. Bah, je peux faire les 3, je m'arrête devant la montagne, mais par contre je prends un petit pion d'épuisement.
Ok.
Une petite tente.
T'as dû freiner très fort les pieds de ton yak là.
Ouais, c'est ça. Si j'en ai 3, et bah du coup, je devrais ne pas jouer un de mes dés.
Ok.
Je ferais sauter un de mes, tu vois, une de mes 3 actions dans mon tour, je la perdrais.
T'en lances 6, mais t'en as le droit d'utiliser que 2.
Que 2, voilà, j'en utiliserai que 2 sur les 6. Il y a un moment, en fait, quand j'aurai mes 3 tentes, si tu veux, en gros, faut que je me repose. Et donc, pour virer mes 3 jetons de tente, et ben du coup, je vire un dé.
Ok.
Et voilà, ça y est, j'ai fait mon tour.
Et tu repars frais et dispo, d'accord, ok.
Exactement.
Ok.
Et il y a une autre manière de les récupérer, parce que donc là, ce que je suis en train de vous décrire, vous allez me dire, bah du coup on avance et c'est sympa, et à la limite je peux prendre mon temps sur le chemin et aller sur les bonnes tuiles ou comme je veux. Mais là, il a pensé un truc intéressant, c'est qu'à la fin de chaque manche, tu retournes un petit jeton, soit ça a été une très belle journée et il a fait soleil et il n'y a pas de souci, soit il y a eu le blizzard, et donc derrière t'as une espèce de petit truc en carton, un petit standee, qui représente tout un truc, un mur de...
Mur de glace, ouais.
Comme si tu voyais un énorme nuage avec de glace qui t'arrive dessus. Et ben tu le fais remonter complètement sur un des rectangles dont je vous ai parlé, là, qui font le chemin.
Ok.
Je le fais avancer complètement d'une planche. Et je dis, tous ceux qui sont derrière le blizzard, là, qui se le sont pris dans la tête, et ben ils se prennent tous le fameux malus.
Ok, c'est pas éliminatoire pour autant, ouais. Moi, je m'attendais à un truc plus violent.
C'est pas éliminatoire pour autant, mais... ça va te ralentir.
T'as quand même un truc qui te pousse au cul pour avancer. Oui.
Exactement.
Oui.
Et sachant qu'il y a un nombre de tours limité, et qu'à la fin, celui qui sera le plus près de Katmandou, ou qui sera carrément sur Katmandou, aura un bonus. Et ensuite, c'est en fonction de si t'es plus ou moins loin de Katmandou.
Ah, ok.
Donc à la fois, t'as envie de t'arrêter un peu partout pour bien prendre le temps de passer
par... Ça fait penser à Cubitos, ça, monsieur.
Eh ouais, ça fait penser à Cubitos, exactement. T'as envie de t'arrêter sur toutes les choses que t'aimes bien, et en même temps, faut avancer. Mais, à la différence de Cubitos, c'est pas parce que t'es arrivé le premier à Katmandou que tu vas gagner.
Ouais.
C'est quand même celui qui aura... C'est une bonne salade de points à la Stefanfeld. Celui qui aura le plus de points à la fin aura gagné. T'auras un bonus à être arrivé en premier, mais alors que dans Cubitos, c'est sec. Si t'es le premier arrivé...
Bah ouais, bien sûr, ouais, c'est une course. C'est une vraie course, quoi.
C'est une vraie course. Là, il y a quand même un effet de course par ce blizzard qui te pousse. Et puis parce qu'il y a quand même des points intéressants à aller à choper à Katmandou.
C'est des points importants quand même, ouais, c'est beaucoup.
Ouais, ça reste important.
Ok, ok.
Ouais, ça reste assez important. Et l'autre petite interaction, c'est donc dans les choses qu'on peut récupérer quand on se balade sur le terrain, tu as des souvenirs que tu peux acheter. Et si tu payes un peu plus cher, tu peux avoir le méga souvenir. Là, au niveau du fluff, ne cherchez pas à comprendre, ça n'a pas de sens.
Oui, on est chez Feldin de toute façon.
On s'en fiche. Et du coup, tu prends donc ta petite tuile qui rapporte des points, et tu prends la plus grosse tuile qui a le même dessin, et celle-là, par contre, si plus tard quelqu'un rachète et paye pour avoir la plus grosse, il te la reprendra.
Ok.
Ah.
Donc, on va avoir un petit jeu comme ça, où on va se piquer les choses les uns les autres. De la même manière, quand je vous ai parlé des dessins d'animaux, il y en a 2 qui sont disponibles par manche. Bah une fois que les 2 ont été dessinés, c'est fini. Donc là aussi, tu vois, il y a une espèce de course
petit effet course, ouais.
Attends, faut aller en forêt pour pouvoir dessiner le truc.
Course à la peinture.
Allez, vas-y, on va vite faire la peinture, ça va être super. Voilà.
Ok.
Y a, ouais. Donc le jeu est très fluide au final, plutôt familial, tu vois, familial, enfin initié, on dirait plutôt.
Bah ouais, clairement, ouais, ça se sent.
Il
ouais.
Y a juste un truc qui est relou, je sais pas pourquoi il a fait ça. Tu sais, on parle souvent des petits points de règle où tu te dis, mais ça, c'est contre-intuitif, c'est chiant, c'est nul.
Ouais, ouais.
Il a mis sur chaque plaquette, tu vois, tu as une espèce de symbole de boussole qui t'indique le nord.
Ok.
Si tu vas contre le nord,
oh, ok, je vois.
Ou je sais plus si tu vas dans le sens du nord, ben je sais plus comment c'est, mais en gros, il y a un truc par rapport à ça. Et si tu vas dans ce sens-là, tu te prends nécessairement une fatigue. La fameuse fatigue, là, dont je vous dis, au bout de 3, tu as une pénalité, tu perds un dé.
Ouais, c'est une espèce de contrainte en plus, tu trouves pas qu'elle apporte grand-chose.
C'est
quoi.
Ça, c'est une espèce de contrainte en plus. Mais seulement, c'est pas toujours dans le même sens, parce que quand tu changes de plaquette, ça change le nord.
Ah ouais, en plus.
Et donc, et régulièrement, tout à coup, on fait « Ah mais attends,
ouais.
Y a 2 tours, en fait, t'es allé du côté du nord. Ah ouais, mince, j'ai oublié. »
Ouais, ça a l'air un peu con, et ça a pas l'air d'être essentiel au cœur du jeu, quoi, en plus.
Ça
quoi.
N'apporte rien, et tu te dis ouais. « Mais merde, il a juste, tu vois, dans les 6 dés, c'est une des 6 couleurs, et tu te dis, bah celle-là, on pouvait s'en passer, en fait.
Ok, ouais, en effet, ouais.
Toutes les règles sont très intuitives, enfin, c'est très simple à jouer, et ça, c'est le truc, oh, on l'oublie, et c'est relou.
Ouais.
C'est vrai que si d'un coup le nord il est en face, un coup à gauche, un coup à droite,
ça n'a pas de sens.
Qu'est-ce qui s'est passé quoi?
C'est parce que le jeu il s'appelait Perd pas le Nord au début en fait et il a voulu garder la blague.
C'est carrément ça.
Mais c'est con parce qu'en plus il y a des jeux alors qui sont pas forcément très réussis, mais les Îles dans le brouillard qui jouent vachement sur ce côté direction plus du vent.
Ouais.
Et tu vois, enfin, mais c'est le cœur du jeu entre guillemets, et que si tu dois aller contre le vent, ben là effectivement il faut payer, mais c'est le cœur du truc.
C'est logique.
Là, t'as vraiment l'impression que c'est un élément annexe et superflu, quoi.
Une rustine, quoi.
Ben, en fait, ça serait logique si c'était le même, tu vois, si on l'avait placé dès le début.
Oui, en plus, ouais. Ouais.
Et on l'aurait mis aléatoirement au début et on serait dit, bah, dès qu'on va dans ce sens-là, on est contre le vent, donc on se prend tous une fatigue.
Je suis même pas sûr que ça apporte grand-chose, même.
Mais voilà, moi non plus, mais...
Ouais,
okay. Et sinon, donc, comme toujours chez Queen Games, du coup, t'as deux petites extensions, enfin, tu sais, des petits modules en plus.
Ouais, des petits modules, ouais.
Et les modules sont très simples et tout de suite à mettre dedans. Il y en a un, c'est une mécanique de catch-up.
Ok.
Et le deuxième, c'est t'as un pouvoir, chacun a un pouvoir. Donc, justement, il y en a un qui te dit tu peux traverser les montagnes, il y en a un autre qui te dit je sais plus quoi. Enfin,
okay.
Tu vois, ils ont chacun.
Des petits pouvoirs, ouais.
Et un effet qui est plutôt cool, qui tord bien la règle, donc qui a de la vraie personnalité pour le coup.
Ok, très bien.
Il y en a 6 des personnages. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4. Mm-hmm. Ils disent 75-120 minutes. Alors, vu que tu peux choisir la grandeur de ton plateau.
Oui, tu adaptes, ouais.
T'adaptes. Moi, je trouve que ça tient bien dans les 75 minutes, effectivement.
Ouais, ça a l'air pas inintéressant. Après,
ouais.
Après, moi, j'aurais aimé, je crois, que les gens qui arrivent pas à Katmandou sont éliminés. Il y a Knizia qui a fait ça récemment dans Cascadero, qui est pas super par ailleurs, mais où si t'arrives pas en haut de la piste de ta couleur, ben, tu peux pas prétendre à la victoire. Et moi, je trouve ça plus radical, tu vois, et un peu plus... C'est moins familial, sûrement, tu vois. Ça donne encore plus d'enjeux au fait d'arriver au bout de la piste, quoi. Après, comme il y a des dés et tout, peut-être que tu pourrais pas y arriver malgré tout, donc ça irait peut-être pas dans Katmandou, mais...
Non mais je vois ce que tu veux dire, un truc un peu à la Lords of Xillie où t'as une espèce de couperet, enfin ou Himalaya,
ouais, c'est ça, ouais.
Où t'as un couperet en disant attention là, ouais, faut pas déconner, ça, faut vraiment y être parce que sinon même si t'as très bien fait à côté tu gagnes pas quoi.
Ouais,
moi aussi je trouve ça pas mal comme mécanique.
Ok, très
bien. Ben voilà, du coup c'est un nouveau Feld.
Bah essayez.
Et pour une fois j'ai envie de dire c'est un peu nouveau. Cette idée pour lui de se balader, enfin tu vois qu'il y ait une... C'est pour ça que je pense que...
Amerigo peut-être un petit peu, mais ça il n'y avait pas la dimension de course quoi. Mais...
C'est ça, il n'y avait pas cette dimension de course. Et avec ce blizzard là qui te pousse et où tu... Physiquement en plus vu que tu vois c'est un élément qui est droit alors que tout le reste est à plat. Oui, il y a de la mise en scène qui fait que tu te dis oh là là attends ça nous arrive dessus, prochain tour peut-être que... Donc c'est plutôt sympa.
Ok, très bien.
Voilà, voilà.
Bah essayez alors. Et toi, Kurt, à quoi t'as joué récemment ?
Alors moi, j'ai joué à Draftosaurus, donc c'est un jeu de 2019, par 4 auteurs assez peu connus, qui s'appellent Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler de ces 4 types-là, mais ils ont pas fait grand-chose d'autre.
Non.
Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Bon, voilà. Le principe de Draftosaurus, c'est un petit jeu de draft, comme son nom l'indique, où chaque joueur va gérer un zoo... mais un zoo de dinosaures, façon Jurassic Park, mais là où les choses se passent bien.
Ouais.
Ouais, mieux que dans Jurassic Park, on est d'accord.
Ou que dans d'autres jeux, hein, y a pas mal de jeux qui ont fait ça. Il y a Dinosaur Island qui avait
Dinosaur
fait ça,
Island,
ça peut très, très mal se passer.
Dinogenix, ouais, etc. Ouais. Oui, tout à fait. Ou même le Tiny Epic Dinosaur. Oui. Là, non. Là, tout se passe bien. Chacun a son plateau qui représente son parc, mais on a tous le même, ils sont identiques. C'est recto verso, ouais. Après, je vous en parlerai après. Donc, il y a différents enclos à dinosaures qui font différents effets et qui marquent des points différemment. On va prendre chacun une poignée de dinosaures en main parmi les 6 espèces disponibles qui sont dans un sac. Il y en a une grosse poignée de chaque. Chaque joueur va prendre au hasard 6 dinosaures dans le sac qu'il va garder dans la main. On en pose un dans son parc à dinosaures, modulo une contrainte. En effet, le premier joueur qui change à chaque tour va lancer un dé qui va définir une contrainte pour tous les autres joueurs. Donc on pose un dinosaure dans son parc, on passe la poignée de dinosaures à son voisin de gauche, on récupère la poignée de dinosaures de son voisin de droite, on pose un nouveau dinosaure dans son parc, etc. jusqu'à ce qu'on ait plus de dinosaures. En fonction du nombre de joueurs, on va faire un ou deux tours, et on compte les points. Donc chaque enclos à dinosaures marque d'une différente façon. Il y a un enclos qui va marquer en fonction de la quantité de dinosaures différents qu'on a, ou de dinosaures identiques, ou de faire des couples, etc. C'est pas très compliqué, voilà. C'est un jeu, moi, que j'aime beaucoup, qui est sympathique. Et puis, vu qu'il y a un côté draft, il y a moyen de se faire des petites crasses. Est-ce que je pose ce dinosaure-là chez moi parce qu'il m'intéresse, ou est-ce que je pose celui-là parce qu'il intéresse vachement plus le suivant dans le draft ? Parce qu'évidemment, on voit les enclos des camarades. Voilà, je vous ai très rapidement résumé le jeu. De toute façon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire.
Ouais, moi, je trouve, Ça, la plupart des collections, enfin des systèmes de scoring sont très classiques, tu vois, à la Sushigo et tout. Hein.
Oui.
Enfin, ils ont vraiment rien inventé là-dessus. Il y a peut-être juste, tu vois, le roi là des dinosaures où c'est, si, je crois, c'est genre si c'est le plus pré, je sais plus si c'est le plus présent dans ton enclos ou si c'est le plus présent à table.
Non, le plus présent, ouais. Le plus présent sur la table. Si par exemple, si je le mets dans cet enclos là, que je mets un tyrannosaure et que c'est moi qui ai le plus de tyrannosaures.
Ouais, c'est
tous
ça.
Les enclos, je gagne des points.
Et puis il y a le celui qui est en bas à droite là, le solitaire, c'est ça. Ouais.
Et si c'est le seul dinosaure de cette espèce là que j'ai dans mon zoo, je marque des points.
C'est ça. Et celui-là est rigolo parce que parce que on peut te le pourrir facilement.
Si à la fin on te laisse le dinosaure qui te fait un doublon, bah c'est perdu. Et puis je tiens quand même à revenir sur le dé parce que j'y suis passé trop vite. En fait, le joueur actif va tourner à chaque tour. Donc, le joueur actif va jeter un dé qui va imposer des contraintes aux autres joueurs. Donc, les contraintes vont être de jouer. Les autres joueurs vont devoir jouer sur la partie droite ou la partie gauche, sur la partie haute ou sur la partie basse, dans un enclos où il n'y a pas déjà des dinosaures ou dans un enclos où il n'y a pas de tyrannosaures. Ce qui peut rajouter une petite contrainte, hein, comme son nom l'indique, aux autres joueurs, sauf premier joueur.
Ouais.
Ce qui est pas inintéressant.
Ouais, bah ça rajoute. En fait, c'est un jeu très libre aussi, non, et très positif. Parce que, en gros, quel que soit le dinosaure que tu prends, tu pourras le mettre quelque part où ça va être plus ou moins utile. Au pire, tu le mets dans la rivière, quoi. Alors que là, justement, ce qui est rigolo, c'est que tu vois ta main, tu te dis, ah, celui-là, il irait bien là, et bim, le dé te. Tu sais, il y a un effet un peu de surprise. Et au moment où tu vois le dé, tu te dis, merde.
Le dé t'empêche. Oui. Bon, bah voilà, va falloir que je me débrouille, que je le pose ailleurs. Exactement. Tu peux y jouer de 2 à 5 joueurs. Mine de rien, 5 joueurs, c'est pas si courant que ça, c'est quand même agréable. Il propose 2 plateaux, une face été, une face hiver. La face hiver complique un peu, c'est un scoring un poil plus élaboré, un poil plus intéressant. Il y a un petit goodie qui existe, qui modifie un des enclos. Et il y a 2 extensions qui existent. Je vais pas vous mentir, les extensions, je les ai pas essayées. Okay. Je peux pas vous en parler. L'un rapporte des dinosaures volants, l'autre des dinosaures qui nagent.
T'as la version française, toi ?
J'ai et la version française et la version polonaise.
Parce qu'il y a une version coréenne de Jelly Jelly Game, mon gars. Il faut que toi qui es collectionneur, elle est canon. Canon de ouf.
C'est une version japonaise.
Ah, yes.
Je sais. Oui, je sais. Elle est sur ma liste. Oui. Et je tiens à dire aussi que les petits meeples de dinosaures sont absolument adorables.
Ça te pose pas de soucis, toi, dans les mains, tu sais, pour le côté draft. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup joué sur BGA. Donc, évidemment, sur BGA, t'as pas ce problème. J'ai joué récemment en physique et moi, ça allait. Mais je sais qu'il y a des gens qui râlaient un peu sur « ouais, c'est pas agréable à drafter ».
Moi, ça me pose pas de problème. Je sais qu'il y a des gens, particulièrement quand ils jouent avec les enfants, qui les mettent dans des petites boîtes ou dans des petites coupelles ou dans des petits supports. Ça me choque pas, c'est pas délirant. Pourquoi pas ? Ça peut faciliter le passage d'un joueur à l'autre. Oui, je comprends. Mais non, personnellement, moi, j'ai aucun problème à donner mes dinosaures de la main gauche et en réceptionner en même temps de la main droite.
Ouais,
voilà.
Ouais, jeu de draft assez classique, hein, mais...
Très classique, mais avec des dinosaures, voilà, pour des parties d'une quinzaine de minutes qui sont très agréables.
Ça a été un gros carton, hein, pour le coup, de Ankama et de la team Kaedama. Ça a très bien marché.
Oui, quand il est sorti, il a fait un carton, effectivement.
Tu as joué, toi, Bartou, déjà ou...
Non, non, pas du tout. Je le vois dans les boutiques. Enfin, tu vois, je le vois comme truc qui a marqué, mais justement, je crois que j'avais... jamais entendu de retour ou quoi que ce soit sur ce jeu-là, donc je me posais toujours la question de qu'est-ce que ça pouvait donner, mais ok. Oui, effectivement, à l'écoute là des règles, je vois très bien comment ça tourne, et je vois l'intérêt que tu peux avoir et effectivement à te sentir, à te dire « Ah non ! Pourquoi il a lancé le dé comme ça ? Je peux plus faire ça !» Mais oui,
et mine de rien, t'as aussi l'arc de partie, comme évidemment, t'as quand même 2 manches, je crois, la plupart du temps.
Oui, c'est ça, 2 manches.
Bah, en fait, l'arc de partie, selon ce qui sort à une manche et à l'autre, va pas être le même, parce qu'à un moment, il y a, bah, par exemple, une espèce de dino qui sortira peut-être pas du tout à la première manche, quoi. Et ça, tu le sais pas, en fait, au début, avant d'avoir reçu tous les dinos.
Tu le sais pas. Tu prends les dinosaures au hasard dans le sac, donc tu sais pas ce qui va sortir, tu sais pas. Et tu joues pas avec l'ensemble des dinosaures qui sont dans le sac. Il y en a forcément qui resteront dans le sac, donc il y en a qui seront laissés de côté. Est-ce qu'il y aura beaucoup de tyrannosaures à ce tour-ci ? Est-ce qu'il y aura aucun tyrannosaure ? On ne sait pas.
Pas de proba complète avec un jeu complètement fermé. Ouais, d'accord.
Absolument.
Ok. Eh ben alors, ça fait pas mal de jeux qu'on doit essayer. Encore, en plus de ceux de volume de pif, ça commence à faire beaucoup.
Oui.
Et voilà. Eh oui, rajouté dans la liste des jeux à essayer.
Yes. Bon, moi, je vous laisse, les gars, je vais encore comater. J'ai la chance d'avoir encore une semaine de vacances, donc je vais en profiter. Il faut que je bosse, mais là, pour l'instant, ça va être glander et essayer de recouvrer des forces.
Ouais, je te comprends. Repose-toi bien.
Ouais, merci.
Repose-toi bien.
Salut, à plus.
Salut.
Allez, ciao, les gars, jouez bien. Bye.